tergiverser, ni même de réfléchir. Il doit être rapide, précis et efficace. En un mot, il faut qu'il maîtrise parfaitement l'endroit. Ce lieu, il doit le connaître comme sa poche, ainsi que les petites routes discrètes qui y mènent. Ce lieu lui parle, l'apaise, le réconforte, au moment où il vient de commettre l'irréparable. Les enquêteurs entendent systématiquement les proches de Meillon, membres de la famille, amis d'enfance, camarades de classe, ex-copines, complices de cambriolage, anciens co-détenus, afin de déterminer les endroits qu'il fréquente depuis son plus jeune âge. Les moyens de recherche, pédestres, cynophiles, aériens, nautiques, subaquatiques, spéléologiques, sont engagés en fonction du potentiel de dissimulation des sites. Grâce au témoignage de Berthier, il est établi que Meillon s'est rendu au centre commercial Atlantis dans l'après-midi du 19 janvier. Son portable borna Atlantis vers 15h, puis sur Couéron, après quoi il est coupé. On sait par ailleurs que Meillon a passé son enfance à Couéron, en aval de Nantes, et qu'il vit dans sa caravane au Caspeau, près d'Artois-en-Ré. Le périmètre de recherche se resserre. Cette stratégie est mise au point par Franz Touchet. Âgé de la quarantaine, gendarme, fils de gendarme, c'est un homme pétri de valeurs, qui ne vit que pour l'enquête. Après des études dans les eaux et forêts, il a passé 6 ans à la SR de Poitiers, 10 à celle d'Angers. Dans les moments de creux, il reprend les cold cases, de vieilles affaires non élucidées. Pour éviter la prescription, il rédige un petit acte d'enquête. C'est sa manière de ne pas laisser les morts mourir. Il est extrêmement scrupuleux en matière de procédure, très loyal envers son magistrat. Il ne se voit pas faire autre chose que des enquêtes criminelles. Sa passion a bloqué sa carrière. Resté trop longtemps adjudant-chef, il ne peut prétendre au grade de major sans quitter la SR. Mais la gravité des affaires qu'il résout avec ses collègues et l'importance de la fonction sociale qu'ils assument collectivement rendent quelque peu dérisoires ces histoires de grade. Entrer dans la tête de Meillon, faire remonter ses souvenirs d'enfance, arpenter les lieux de sa jeunesse, comprendre sa relation avec sa mère. Pour élucider un crime inhumain, les enquêteurs doivent plonger dans l'humanité du criminel. Tony Meillon est né en 1979. Sa mère a été violée à l'âge de 15 ans par son propre père. De ce viol est né un garçon, le demi-frère aîné de Tony. Pour Cécile de Oliveira, toute la défense de Meillon est fondée sur l'orgueil, le sentiment d'être différent et supérieur au commun des mortels. L'inceste est fondateur dans sa famille, et la loi qui le proscrit est d'emblée transgressée. Soit la loi a raison et sa famille est monstrueuse, soit sa famille l'emporte, et la loi n'est rien. La mère se marie avec Jacques Meillon, avec qui elle a 3 enfants. Un garçon, une fille et Tony. Le mari, qui a reconnu l'enfant de l'inceste, est fainéant, alcoolique, violent, maladivement jaloux. Lors de ses crises, il bat sa femme et les enfants, sauf Tony, parce qu'il est le petit dernier et qu'il lui ressemble. L'homme commence à tripoter sa fille. La mère a tout accepté, la misère, le vin mauvais, les hurlements, les coups. Mais là, c'est la limite à ne pas franchir. Sa fille ne subira pas ce qu'elle-même a subi. Avec ses 4 enfants et 2 valises, elle part se réfugier dans un foyer de femmes battues. Son mari achète un fusil pour la tuer. Le divorce prononcé, le père déchu de ses droits, elle atterrit dans une HLM de la cité Bel Air, à Couéron, en bord de Loire. Les enfants grandissent. À la fin des années 1980, elle refait sa vie. Le petit Tony développe une haine forcenée, inexpiable pour son beau-père. Une petite sœur naît. La famille déménage dans un pavillon à Couéron. Tony devient méchant. Il s'enferme dans les toilettes, donne des coups de poing dans les murs, agresse les autres enfants, fugue pour un oui ou pour un non. En CM2, il manque de poignarder son institutrice. En 6e, il a entre 0 et 1 de moyenne. Il commence à fumer des joints, les professeurs n'en veulent plus. À la maison, on lui dit « Tu es comme ton père ». À 12 ans, il est placé dans un foyer à Guérande, puis dans une institution spécialisée. Sa mère et son beau-père se seraient débarrassés de lui. Sentiment d'injustice. Il fugue de son foyer et rentre à pied à Couéron. Après un jour et une nuit de marche, il arrive chez